de mon livre, qui s'appelle Louis XVII, donc l'enfant roi. Alors, j'ai tenu au sous-titre parce que précisément c'était une manière pour moi ça résume la démarche que j'ai voulu avoir en entreprenant ce livre. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout la question de la royauté, de la construction de la royauté à un moment précisément où elle est remise en cause, au moment de la Révolution française. Et donc, effectivement, je ne me suis pas posé la question du mystère Louis XVII, aucune archive ne permettant d'affirmer qu'il y ait une survivance quelconque. Donc là, je suis d'emblée très claire, ça n'a pas été du tout ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne la monarchie en France à cette période-là, et en fait, de la comprendre justement en prenant un moment où elle paraît le plus faible possible, c'est-à-dire quand il y a un enfant roi sur le trône, et en plus un enfant roi captif. Et donc c'est tout le paradoxe qui m'intéressait autour de ce personnage, c'est de voir à quel point il avait pu intéresser, fasciner, au point qu'on invente une survivance, alors même qu'il était sans pouvoir, enfermé, faible, et à la merci en fait de ses ennemis. Donc voilà, en résumé ma démarche, peut-être qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, et donc je voudrais simplement vous présenter d'abord son parcours de vie, et puis terminer donc par dire quelques mots sur les faux Louis XVII. Alors, comme il faut partir assez tôt, donc je vais essayer d'être assez brève et de tenir un temps raisonnable pour terminer vers 19h, ça paraît très bien. Alors, commençons tout simplement par le commencement, donc de Versailles aux Tuileries, l'enfance d'un prince. Alors, une enfance à Versailles, donc c'est le bon lieu pour en parler. Le prince naît le 27 mars 1785, donc il est baptisé Louis Charles. Il est le troisième enfant du couple royal, donc le deuxième fils, et son titre est duc de Normandie à la naissance, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas appelé à prendre la succession à son père. Il a un frère qui paraît à ce moment-là en bonne santé, sur lequel il a tous les espoirs de la dynastie. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que je vous entendez assez bien, parce que j'ai tendance à éloigner le... Oui. Il sera suivi, donc j'ai repris le tableau pour illustrer ce propos, le tableau très classique de Madame Vigée-Lebrun, qui est en fait un des très rares tableaux sur lequel tous les enfants sont représentés ensemble. Donc, et le duc de Normandie est à ce moment-là sur les genoux de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse, sa sœur aînée, tenant le bras de sa mère, et puis le dauphin découvrant donc, le berceau vide de la petite Madame Sophie, qui est morte à presque un an, en 1787, donc au moment où le tableau paraît. Donc, il naît dans la monarchie qui est tout de même la première monarchie d'Europe, à un moment où le règne de Louis XVI paraît parfaitement installé. D'autant que la dynastie, avec la naissance d'un deuxième garçon, paraît parfaitement assurée. Marie-Antoinette est tellement sûre d'elle-même qu'il semblerait, au vu des sources, et c'est l'hypothèse que fait notamment Berthier, je la suis tout à fait sur ce point-là, qu'il semble qu'en fait elle se soit séparée de son mari à partir de 1787. Elle a considéré qu'elle avait eu quatre enfants, que c'était suffisant, qu'il y avait deux fils. La couronne était assurée. Elle ne s'entendait pas, elle s'entendait amicalement avec son mari, pas amoureusement. Elle estimait qu'elle avait accompli son devoir et qu'elle pouvait reprendre une forme d'indépendance qui n'allait pas forcément très loin, mais en tout cas une forme de liberté. Alors, Louis Charles, à sa naissance, est pris en charge par la structure qu'on appelle la Maison des Enfants de France, dont la gouvernante à ce moment-là est Gabrielle de Landau. Donc la duchesse de Polignac, qui est l'amie de la reine, sa favorite, dit-on, qui est chargée plus spécifiquement, de l'éducation du dauphin, de l'aîné des enfants. Donc c'est Louis-Joseph qu'elle va plus particulièrement suivre, et en même temps c'est quand même elle qui dirige l'ensemble de la maison. Elle le fait avec une certaine nonchalance. C'est-à-dire que c'est une charge très lourde quand on est gouvernante des enfants de France, c'est le premier office féminin de la Cour. C'est en même temps une charge importante parce que vous avez une quarantaine de personnes au bas mot sous vos ordres. C'est une véritable petite administration qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité. Et ma foi, la duchesse de Polignac trouve ça assez fatigant. Et à plusieurs reprises, elle va essayer de poser son fardeau, de demander à la reine de la soulager de cet office qui pourtant est par ailleurs très rémunérateur. Mais la reine trouve beaucoup d'avantages à ce que ce soit Madame de Polignac qui s'occupe de la maison de ses enfants, puisque ça lui permet de la voir quotidiennement. Elle peut, comme Madame de Polignac a ses appartements en l'aide du midi auprès des enfants, la reine peut voir à la fois ses enfants et son amie la plus proche. Donc ça lui permet à la fois d'être plus proche de ses enfants, d'avoir plus de son mot à dire qu'aucune reine auparavant sur l'éducation de ses enfants, tout en profitant de l'amitié de la duchesse de Polignac. Et donc la duchesse de Polignac va rester en place. Il y a eu quelques petites tensions à certains moments, précisément quand Madame de Polignac avait tendance à prendre au contraire un peu trop à cœur l'intérêt des enfants contre la vie de la reine. Quand elle n'était pas d'accord, elles ont eu une petite fâcherie justement à propos de Louis-Charles, parce que la duchesse de Polignac avait voulu faire venir un médecin particulier et la reine a accusé la duchesse d'avoir manqué de tuer son fils en prenant des initiatives, ce qui était faux. Donc vers 1787, petite tension, bon, qui finalement ça pèse plus ou moins. Et la révolution, ma foi, arrive suffisamment vite pour que toutes ces choses figurent comme de simples bécadilles. Donc, effectivement, Louis-Charles a sans doute été beaucoup plus que d'autres princes, je dirais des générations précédentes, élevé par sa mère, parce que c'était le second, qui n'était pas l'héritier de la couronne. Donc, Marie-Antoinette considérait qu'elle avait le droit de s'occuper de ce fils-là. Il y a chez Marie-Antoinette quelque chose d'assez étrange, peut-être assez moderne, faudrait-il dire, c'est-à-dire qu'elle est à la fois... c'est quelqu'un qui tient tout de même au statut royal. Elle est née de Lorraine d'Autriche, elle a conscience de son rang, elle a conscience d'être la reine du premier royaume européen. Il n'y a pas... Ce sont des titres dont elle est fière et elle sait quel est son rang, comment il faut le tenir. Ça, c'est... Je pense qu'il faut arrêter un petit peu avec les légendes qu'on propage parfois sur Marie-Antoinette qui ne comprend rien à rien. C'est pas tout à fait exact. Mais dans le même temps, sans doute par un effet générationnel qui s'explique par un renouvellement des sensibilités dans l'ensemble de l'aristocratie européenne à ce moment-là, elle aspire aussi à avoir une vraie vie privée, quelque chose qui n'appartienne pas à l'État mais qui lui appartienne à elle. Et donc sa manière en fait de réussir à concilier les deux en même temps, ça va être de laisser son fils aîné Louis-Joseph à sa gouvernante, à ses instituteurs, à la maison, en tant vraiment des enfants de France, puis à la maison du dauphin, et de s'occuper davantage de sa fille et du cadet, qui eux finalement peuvent rentrer dans sa sphère intime, puisqu'a priori le trône ne les attend pas. Donc voilà, elle fait une espèce de séparation assez nette entre ce qu'elle peut faire avec chacun de ses enfants. Donc je prenais ce petit portrait qui doit être au Louvre, ce ferreur de ma part, qui est ici, qui est à Versailles, le musée de Versailles, que je trouve intéressant parce qu'il illustre justement cet intérêt nouveau pour les jeunes enfants. Vous voyez, à ce moment-là, c'est un enfant qui a un an et demi. Le médaillon n'est pas daté. Et donc, on en fait des petits portraits qui souvent sont distribués ensuite aux proches de la famille royale à titre de remerciement. Et sur ce médaillon, derrière ce médaillon, vous avez en fait des cheveux qui sont collés. Alors ça, peut-être que ce sont des cheveux, peut-être que les cheveux datent de plus tard, peut-être que c'est un bijou qui rappelle aussi la Révolution, on n'en sait pas plus. Mais ça prouve bien que ces enfants, même tout petits, ont une personnalité, ont un intérêt, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Ma foi, les enfants commençaient à être intéressants à l'âge de raison. Donc il faut bien s'imaginer que Louis-Charles grandit dans une atmosphère finalement très protégée, très familiale, où il n'a pas encore beaucoup de... Ses devoirs de prince ne pèsent pas à ce moment-là trop lourd. On sait par exemple que les enfants, pendant très longtemps, ont dit déjeuner en public, hein, comme tous les membres de la famille royale, dès leur plus jeune âge. C'est attesté encore pour les filles de Louis XV. Pour Louis XVI, personnellement, on n'a pas trouvé de traces. Donc je ne sais pas si, par exemple, cette coutume a été maintenue. Je suis absolument incapable de le dire. Donc, a priori, plutôt une atmosphère extrêmement protégée, qui va en fait changer. Tout va changer en 1789. Et tout va changer en fait en même temps pour des raisons finalement indépendantes les unes des autres, mais qui vont toutes se superposer. La première, c'est tout simplement la mort de son frère aîné, le 4 juin 1789. Donc là, j'ai pris une des rares estampes qui était publiée pour commémorer cet événement. Donc vous voyez le jeune enfant, alors qu'il est même représenté hein, comme un tout petit enfant, il avait 8 ans, on a même l'impression qu'il est moins âgé que ça. Et vous avez ici la France qui pleure en fait sur la perte de ce jeune prince dans laquelle elle pouvait placer tous ses espoirs. Donc, avec la mort de son frère, Louis-Charles devient donc le nouveau dauphin. Donc, il est le duc de Normandie, mais dauphin de France. Et dauphin de France à une période, bien évidemment, qui n'est pas la plus simple pour la monarchie, puisque son frère meurt au moment où, en pleine réunion des États généraux. Ce qui, d'ailleurs, politiquement, a posé un véritable problème. C'est-à-dire que Louis XVI a été extrêmement affecté par la mort de son fils, ce qui est normal, bien évidemment, sur le plan personnel. Mais sauf que c'est arrivé à un moment crucial pour la monarchie. Et les députés des États généraux, en fait, ont mal compris l'attitude du roi, parce qu'en fait, Louis XVI s'est renfermé dans son deuil, s'est replié, lui aussi, comme la reine, sur une espèce de sphère intime, finalement, pour pleurer. Et alors qu'en fait, il aurait fallu presque qu'il fasse de la communication au sens moderne. Les gens, en fait, attendaient, en tout cas les États, attendaient finalement que le roi communique avec eux, leur fasse part de sa souffrance, partage ce qu'il ressentait à propos de la mort de cet enfant, ce que le roi était incapable de faire parce qu'il était complètement, il avait le cœur percé par ce qui lui arrivait. Et donc, c'est un épisode qui, paradoxalement, a plutôt renforcé le fossé qui était en train de se creuser entre le roi et les États généraux, là où peut-être ça aurait pu les rapprocher. Là, dès la part de Louis XVI, il y aura toujours cette difficulté, en fait, à faire le départ entre ce qu'il doit au roi et ce qu'il doit à l'homme privé, ce qui est une véritable difficulté. En attendant, donc, Louis-Charles devient donc dauphin de France. Et il va suivre donc les péripéties de sa famille. La première étant, lui, de ses yeux d'enfant, sans doute la seule chose qu'il ait bien perçue. Donc la mort de son frère, certainement, mais en même temps, il est encore jeune pour avoir pleinement conscience de ce qu'est la mort. Sans doute ce qu'il a vécu et ce qui a dû le marquer, c'est les journées du mois d'octobre 89, au cours desquelles la famille royale est obligé de revenir sur Paris. Donc, je rappelle rapidement les événements, je pense qu'ils sont assez bien connus. Hein. Donc, le roi n'avait pas voulu signer les décrets, tous les décrets du 4 août 1789, proclamés par l'Assemblée. Il n'avait pas non plus voulu donner son accord à la déclaration des droits de l'homme. Politiquement, cette attitude avait créé une fermentation de la part d'une partie des révolutionnaires les plus radicaux, qui avait un aspect politique, déjà une tension politique entre le roi et une partie des révolutionnaires, une partie vraisemblablement de la nouvelle Assemblée nationale aussi. Et puis, dans le même temps, il y a eu une crise frumentaire des plus classiques, donc, j'ai envie de dire, qui malheureusement arrivait souvent sous l'Ancien Régime, donc des récoltes de blé qui n'étaient pas suffisantes. Au mois d'octobre, on rentre en période de soudure, les gens commencent à trouver que le prix de pain est trop élevé. Et donc, comme souvent dans ces cas-là, ce sont les femmes qui réagissent, parce que ce sont elles qui nourrissent leur famille. Et donc, le 5 octobre 1789, les femmes de Paris se rendent à l'hôtel de ville pour demander la diminution du prix du pain et du pain, en plus davantage de pain pour nourrir leur famille. Elles n'obtiennent pas gain de cause auprès de la municipalité. Et du coup, elles saccagent une partie de l'hôtel de ville, les archives. Et elle décide d'aller réclamer du pain au celui qui est traditionnellement le pourvoyeur du pain dans le royaume, c'est-à-dire le roi. Le roi, cette figure de père, cette figure de protecteur de ses sujets, celui qui va nourrir les sujets, ses sujets, et donc c'est à lui qu'on va aller réclamer ce qui manque du pain. À lui, et ce qui est intéressant, à l'Assemblée nationale, en fait. Les femmes de Paris décident d'aller voir les deux institutions. Donc, on voit bien qu'il y a très tôt, finalement, les gens font confiance au roi, mais aussi, on a compris que l'Assemblée pouvait jouer un rôle. Et donc, elles décident d'aller sur Versailles pour aller réclamer le pain auprès du pain auprès du roi. Donc, elles sont reçues auprès de l'Assemblée nationale, elles sont reçues auprès du roi, elles arrivent à négocier, elles obtiennent en apparence ce qu'il faut. Tout le monde pense, le 5 octobre 1789 au soir, que c'en est terminé, que cette émeute est. Pas de suite. Et le 6 octobre, malheureusement, matin le 6 octobre, quelqu'un force les portes du château. Alors en fait, les grilles sont ouvertes, alors on ne sait pas si elles ont été forcées, on ne sait pas si elles ont été ouvertes de l'intérieur. Les témoignages sont plus ou moins contradictoires. Très vraisemblablement, il y a eu une politisation, c'est-à-dire que cette émeute a été reprise par certains révolutionnaires qui ont voulu en profiter pour exiger du roi la ratification des décrets qui n'avaient pas été faits pour le ramener à Paris. C'est très difficile en réalité de savoir ce qu'il en est, quelle est la part de spontanéité, quelle est la part de manipulation. On sait qu'à là, les sources manquent et sont parfaitement contradictoires. Toujours est-il que la foule rentre dans Versailles, les appartements du roi de la reine sont forcés, une partie des gardes du corps sont tués. La famille royale réussit à s'enfuir, à se réfugier dans la chambre du roi, donc sur la cour de marbre, et là a lieu la fameuse scène du balcon. Effectivement, la foule, alors toujours la chose, qui dans la foule, enfin, en tout cas, la foule, quelqu'un dans la foule, des gens dans la foule réclament l'apparition de la famille royale au balcon, et en particulier l'apparition de la reine. Et dans un premier temps, la reine va prendre son fils avec elle. Elle va le prendre, des sources disent qu'elle prenne aussi Marie-Thérèse, mais Marie-Thérèse dit qu'elle n'y a pas été dans ses mémoires. Vraisemblablement, faut-il la croire. Et elle prend donc son fils, et en fait, la foule aurait hurlé « point d'enfant ». Donc, elle repousse Louis-Charles pour elle-même paraître seule, sans cet enfant qui finalement était populaire, qui lui servait d'une certaine façon de sauvegarde. Et manifestement, quelque chose se passe, le geste, la reine s'incline, le geste est apprécié, et surtout, donc, le roi ensuite promet que la famille royale ira à Paris. Donc finalement, la foule obtient ce qu'elle veut, enfin une partie de la foule obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire le retour de la famille royale à Paris. Dans un cortège très carnavalesque, avec des chants, des cris, mais qui n'est pas forcément hostile en tant que tel au roi et à la famille royale. C'est un petit peu le paradoxe de cette journée, elle a été très violente. Et en même temps, dans sa globalité, il n'est pas dit que cette foule n'ait pas été sincèrement heureuse de voir le roi entrer avec elle. Et donc c'est un épisode très important parce qu'il a marqué toute la famille royale. Pour Louis XVI, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il s'est senti menacé, il a senti sa famille sur le point d'être assassiné. Et donc il refusera toujours, si vous voulez, c'est le moment où il refuse de collaborer avec la Révolution. Là, il y a eu un pas dans la violence qui a été franchi et qu'il ne supporte pas. Alors qu'en fait, pour une partie des révolutionnaires, c'est une excellente nouvelle. On est très content d'avoir le roi qui rentre dans sa capitale. Et on s'imagine, notamment le maire de Paris, que ça va être un moment pour reconstruire une nouvelle monarchie, qui ne serait plus la monarchie qu'on a connue jusque-là, mais qui serait quand même une monarchie, mais avec une autre figure royale, sur d'autres bases, sur des bases plus constitutionnelles. C'était sans doute un royalisme sincère, en fait, plus modernisé, d'une certaine façon, sincère, mais qui était sans doute en décalage avec les sentiments du roi, qui ne pouvait pas accepter qu'on lui arrache ça par la France. Et donc, cette médaille est intéressante parce qu'elle célèbre, en fait, merci beaucoup, elle célèbre la venue du roi à Paris. et elle a été distribuée. Et donc c'est la mairie de Paris qui, pour célébrer, vraiment pour commémorer le retour du roi, a voulu. Alors là, vous voyez bien qu'on est sur quelque chose de complètement idyllique. Hein. On voit le petit dauphin qui est derrière ses parents, avec une foule qui attend le roi. Le roi conduit, le roi et la reine conduit par la ville de Paris. Donc on a l'impression de quelque chose de tout à fait naturel. On oublie complètement l'émeute qui elle, est complètement gommée. Mais ça vient en fait de cette volonté de reconstruire autre chose, de reconstruire une nouvelle forme de monarchie. Alors on va la retrouver en fait que l'image de Louis Char va évoluer. Donc, vous avez ce portrait qui est publié peu de temps après, donc en 1789. Donc il est toujours dauphin, mais vous avez au-dessus la cocarde nationale qui est adoptée, qui est mélangée avec le portrait traditionnel de l'héritier du trône. Alors ce dauphin ne va pas, finalement il est dauphin de France au mois de juin 89, mais très vite en fait son statut va basculer et il va devenir prince royal. Au mois de septembre 1791, vous avez une nouvelle constitution qui est promulguée, enfin c'est pas une nouvelle constitution, la première constitution, qui transforme donc la monarchie traditionnelle en monarchie constitutionnelle, dans laquelle Louis Charles devient le prince royal. Il n'est plus dauphin de France, il devient le prince royal, et donc l'héritier de son père, donc on attend de lui qu'il mette en place les nouvelles institutions promises par la Constitution. Donc avec un roi finalement qui est quand même dépourvu d'une grande partie de ses pouvoirs. En fait, il a des miettes de l'exécutif, mais pas grand-chose en fait. Il est plus symbolique, enfin il est plus le symbole de l'unité de la nation que vraiment un gouvernant avec les moyens d'influer sur le cours politique. Et ça c'est quelque chose que Louis XVI a beaucoup mal à accepter. Alors, la Constitution, en fait, est élaborée à partir de 89, elle est élaborée sur 2 ans. Donc, elle met beaucoup de temps, elle est proclamée en septembre 91, mais on sait déjà ce à quoi va ressembler dès la fin de l'année 89 et au courant de l'année 90. Donc, en fait, ce petit garçon va devenir, pour une bonne partie des Français, le porteur de toutes les espérances d'une réforme du royaume, d'une nouvelle monarchie, de quelque chose qui est différent de ce qu'elle était anciennement. Donc c'est un personnage qu'on va retrouver beaucoup dans des gravures célébrant Louis XVI, un talent de la Constitution. On commande un grand tableau à David, dans lequel, et à Madame Marie Guillard aussi, dans lequel on représente en fait justement le prince royal aux côtés de son père et Louis XVI transmettant au prince la Constitution et lui enseignant le respect de la nouvelle Constitution française. Alors, je disais que Louis XVI n'avait pas aimé cette Constitution. Et c'est bien parce qu'il n'est pas d'accord avec les réformes qu'il décide de fuir avec l'idée non pas d'aller chercher les troupes de l'étranger, mais vraiment de sortir de Paris et depuis la province, de pouvoir reprendre les choses en main et reprendre le pas sur l'Assemblée nationale. Il se dit que tant qu'il reste à Paris sous la pression de la foule, au cœur d'une politique et la révolution, il n'arrivera à rien. Donc, il décide de passer sur une place forte, sur la frontière, au cas où, mais ça, c'est presque plus une idée de la reine, en fait, qu'une idée de Louis XVI, pour essayer de ressaisir son pouvoir. C'est vraiment sa démarche. Et donc, simplement, comme vous le savez, sans doute, il est arrêté le 21 juin, donc il s'enfuit le 20 juin 1791. Il est arrêté le 21 juin 1791 à Varennes. Autre événement, sans doute, très traumatisant, là aussi, pour le petit Louis Charles, qui a dû se déguiser en petite fille. Alors, en fait, sa mère n'avait pas voulu le mettre au courant du fait qu'il devait partir. Elle avait mis Marie-Thérèse au courant, mais pas son frère. Et donc, l'enfant est réveillé en pleine nuit, et donc on l'a mis en petite fille. Alors, c'était un petit peu un jeu. En fait, il se déguise, il part avec ses parents, on s'enfuit, il faut se cacher. Enfin, bon, il y a quelque chose de presque ludique. Jusqu'au moment où, le 21 juin, en fait, ils sont arrêtés. Et là, de nouveau, il y a des gens qui ont empêché ses parents de partir. Ce sont des larmes, ce sont des cris. Donc quelque chose encore de très difficile et avec un retour extrêmement éprouvant en fait. C'est le retour c'est le retour entre Varennes et Paris qui est très difficile pour la famille royale parce qu'il y a certains endroits où en fait la foule est extrêmement hostile notamment à Épinay, si j'ai bonne mémoire, Madame Royale raconte que en fait ils ont vraiment cru que les enfants étaient séparés de leurs parents, ils ont cru qu'à un moment que quelqu'un allait être assassiné. Donc ça a été un retour très éprouvant, en plus avec la promiscuité quand les envoyés de la convention de l'Assemblée nationale arrivent, donc notamment Bernard Barnave, ils prennent place dans la voiture, Pétion et Barnave sont dans la voiture avec la famille royale. Donc on a ces gens-là dont on ne sait pas trop qui ils sont, qui viennent d'un seul coup s'insérer dans le cercle familial, enfin des tas de choses extrêmement difficiles. Sur le plan politique, en revanche, c'est pour ça que j'ai mis cette caricature, alors qui n'est pas des plus élégantes, hein, je vous l'accorde, qui s'appelle l'égout royal, mais qui en même temps est très révélatrice en fait de la violence avec laquelle on pouvait s'en prendre une opinion qui vient, une partie d'opinion qui est, devient républicaine affirmée à partir de l'épisode de Varennes, s'en prend très violemment à la famille royale, mais aussi sans doute des monarchistes. Parce que là, donc, dans cette caricature de l'égout royal où M. Bailly fait donc ses besoins sur la famille royale en fuite, hein, qui part derrière, donc vous voyez que personne n'est épargné, hein, les femmes montrent toutes leur dernière, donc c'est une grande vulgarité, ça se veut, alors c'est normal, c'est une charge. Mais si vous regardez bien, le seul en fait qui est complètement épargné, c'est le prince royal. En fait, il est en habit tricolore, mais il est complètement indemne. C'est-à-dire qu'il n'a pas de. Il n'est pas souillé. C'est le seul à se retourner. En disant « mais la couronne de papa !» Mais parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, même des gens qui étaient partisans de la Révolution, en fait, cet enfant représentait un espoir, il représentait quelque chose, l'espoir d'une conciliation avec la monarchie, de ne pas tout changer, de changer simplement certaines choses. Et au moment de Varennes, en fait, on va beaucoup parler d'application Louis XVI en faveur de son fils, parce qu'on se dit que si on met de bons éducateurs à Louis XVII, peut-être que finalement la monarchie sera sauvée et qu'on pourra faire passer cette constitution. Donc il y a l'espoir en fait de toute une frange des monarchistes constitutionnels, et donc les débats à l'Assemblée nationale vont beaucoup se concentrer sur son éducation. Comment doit-on éduquer ce prince? Qui doit l'éduquer? Que doit-on lui enseigner? Alors bien évidemment, ça effraie Louis XVI, qui n'a absolument pas envie que son fils lui soit retiré d'une manière, de quelque manière que ce soit. Et puis, bon, finalement, une fois que Louis XVI accepte de jurer la Constitution en 1791, de prêter serment, on parle un peu moins d'éducation du prince. Les événements retombent un peu et Louis XVI réussit en fait à nommer un gouverneur qui sera comte de Fleurieu, donc au début de l'année 92, qui est un homme modéré, qui n'est pas vraiment un constitutionnel, qui n'est pas non plus un partisan d'un rétablissement complet de l'ancien régime. Il se dit que peut-être que cet homme-là réussira à finalement contenter tout le monde. Bien évidemment, comme vous le savez, ils n'auront pas l'occasion de prolonger cette expérience, puisque le 10 août 1792, à la suite d'une émeute, mais alors pour le coup très soigneusement organisée, on sait, l'assaut des Tuileries a été programmé longuement, tout a été programmé, alors que même le roi avait organisé la défense du palais. Tout le monde savait ce qui allait se passer le 10 août 1792. Les Tuileries sont prises d'assaut par la foule, là encore. Et là, Louis XVI a-t-il eu raison ou tort? Toujours difficile à dire. En tout cas, il a fait le choix de ne pas combattre. C'est-à-dire qu'alors même qu'il avait organisé la défense du palais avec les gardes suisses, il décide finalement de ne pas lutter. Il demande aux gardes suisses de poser les armes. Et lui-même va se rendre au sein de l'Assemblée en demandant la sauvegarde de la loi et de l'Assemblée nationale qui doit donc le protéger, lui et sa famille. Ce qui, en fait, en l'occurrence, a été une erreur. Parce que l'Assemblée législative, qui avait été élue à la suite après la proclamation de la Constitution, n'était pas une assemblée anti-royaliste. Il y avait des républicains, mais il n'y avait pas que des républicains dans cette assemblée. Mais en même temps, ils avaient peur. Ils avaient horriblement peur des sans-culottes qui étaient dans les Tuileries, hein, la salle de manège est juste à côté. Donc ils n'avaient pas envie que tout ça finisse dans un bain de sang. Et donc il y a eu certainement une forme de lâcheté, beaucoup d'entre eux. Et donc ils ont gardé avec eux la famille royale dans une loge au-dessus, donc la loge dans laquelle Et ils les ont fait loger la nuit dans le couvent des Feuillants juste à côté. Et à ce moment-là, ils ont vraiment, l'Assemblée législative a complètement perdu la face. Elle a accepté tout ce qu'a voulu lui imposer la commune de Paris, donc cette nouvelle commune, qui s'est formée dans la nuit du 9 au 10 août 1792 avec les révolutionnaires les plus radicaux. Et qui, eux, en fait, n'avaient pas du tout envie d'un accommodement avec la monarchie, qui ne voulaient pas entendre parler, qui ne voulaient qu'une chose, c'était emprisonner du roi. Et donc, en fait, ils ont fait pression sur l'Assemblée. L'Assemblée, dans un premier temps, avait dit non, mais la déchéance de Louis XVI n'a pas été prononcée. Il n'y avait rien eu. Il a été suspendu et on demandait de nommer un gouverneur pour le prince royal. Donc la première solution envisagée par la législative de 10 août, c'était une régence. C'était une régence pour autre chose. Mais en fait, c'est la pression de la commune qui a fini par l'emporter. La commune a dit non, on va se charger de la famille royale et on va lui aménager une prison. Alors c'est très amusant dans les débats, c'est un logement. Donc, le logement en question, c'est ce qu'on appelle la tour du temple que vous avez ici. Donc, c'est l'état dans lequel elle était au moment où la famille rentre au mois de août. Donc, en fait, le palais du temple, ce qu'on appelait l'enclos du temple, avait été construit initialement par les Templiers à Paris. Le donjon daté du XIIIe siècle. Ça appartenait à cette époque-là à l'ordre de Malte, dont le grand prieur pour la France était en fait le neveu de Louis XVI, le duc d'Angoulême. Et donc en fait, ce temple était la résidence du comte d'Artois quand il venait faire des séjours à Paris. Parce qu'à côté de cette vieille tour qu'on avait gardée, il y avait un palais qui avait été refait par Mansart, donc qui était un palais très agréable dans lequel le comte d'Artois logeait. Et bien évidemment, Marie-Antoinette en a manifestement l'intuition, mais immédiate, elle dit, vous allez voir, ils vont nous mettre dans la tour. J'ai toujours dit au comte d'Artois qu'il fallait qu'il abatte cette horreur. Je ne sais pas si c'est terminé là, mais c'est tout à fait... Donc, on va chercher... Donc, effectivement, elle avait tout à fait raison. Donc, on va les loger dans un premier temps dans ce qu'on appelle la petite tour qui est ici, où, en fait, loger l'archiviste de l'ordre de Malte. Donc, c'était un petit appartement qui était sur plusieurs étages, donc qui n'était pas, à proprement parler, inlogeable, en fait, somme toute. Donc on va installer la famille royale là. Donc dans un espace assez exigu, parce qu'il va y avoir la famille royale, à ce moment-là, il y a encore la princesse de Lamballe qui ne va pas rester, et Madame de Tourzel, sa fille, qui vont en fait être très vite partir. Et en fait, la famille royale va rester dans cette tour, en attendant, parce que la commune a suivant les idées, qu'on aménage la grosse tour, parce qu'on se dit qu'ils seront quand même infiniment mieux gardés dans cette grosse tour. Mais pour transformer ce temple véritablement en prison, il faut, comme vous pouvez le constater ici, refaire les murailles qui tombaient quand même un petit peu en ruine. Donc il faut consolider les murs, boucher les trous. Il faut installer des guichets aux portes, renforcer les bourgs-verrous, renforcer la sécurité. On va installer des fenêtres pour que on ne puisse pas communiquer avec l'extérieur, ou en tout cas le moins possible. Et donc les travaux dans la grosse tour sont prêts au mois de décembre 92, et donc la famille royale va déménager dans la grosse tour. Les conditions de vie ne sont pas, dans un premier temps en tout cas, épouvantables. Ce qui est épouvantable, c'est la privation de liberté, c'est l'imminence du jugement du roi, dont on se demande ce qui va lui advenir, même si vraisemblablement Louis XVI et Marie-Antoinette ne se faisaient pas beaucoup d'illusions. Après, la famille royale a droit à une sorte d'argent de poche, une allocation pour se payer un certain nombre de petites choses dont ils ont besoin. Ils peuvent acheter des jeux, ils achètent des livres, ils sont très bien nourris en fait, les places sont variées. Enfin, Marie-Antoinette réussit à obtenir de l'eau de ville d'Avray à laquelle elle était habituée, etc. Donc matériellement, à cette époque-là, en tout cas à ce moment-là, on ne cherche pas à brimer la famille royale matériellement. Maintenant, il reste prisonnier dans un espace extrêmement exigu, sous la surveillance donc, de membres de la nouvelle municipalité de Paris, ce qu'on va appeler les municipaux. En fait, qui sont donc des membres du conseil général de Paris élus. Donc souvent, sont beaucoup d'artisans, c'est beaucoup milieu de sans culottes, et c'est beaucoup milieu d'artisanat, ou parfois des médecins, des avocats. Donc plutôt, on dirait aujourd'hui la classe moyenne, d'une certaine façon, si tant est que ça avait vraiment un sens à l'époque, mais ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui sont des petits propriétaires, qui ne sont pas forcément non plus des brigands, mais qui ont un engagement révolutionnaire et donc qui vont être chargés de surveiller la famille royale. Donc Louis-Charles, lui, va passer beaucoup de temps avec son père, qui va beaucoup s'occuper de ses enfants à ce moment-là, qui va beaucoup s'occuper de Louis-Charles parce qu'il va le prendre avec lui, en fait, à son étage, dans sa chambre. Il va passer beaucoup de temps à instruire. Donc il y a un rapprochement réel, en fait, de Louis XVI et de ses enfants pendant toute cette période-là. Sauf que, bien évidemment, les événements douloureux se succèdent, donc les différentes séparations et la mort, en fait, des uns et des autres. Alors, le seul dont la mort soit connue rapidement, c'est Louis XVI, le 21 janvier 1793. La famille royale le sait, parce qu'en fait, il y avait... Madame Élisabeth avait réussi avec Cléry, qui était resté auprès de Louis XVI, donc qui était valet de chambre justement de Louis-Charles, et qui va partager l'emprisonnement de la famille royale. Et en fait, Cléry et Madame Élisabeth réussissent à mettre en place un code pour échanger entre eux, pour se donner des nouvelles. Et donc la condamnation à mort du roi est connue, elle est écrite par les journaux. Donc sur le sort de Louis XVI, la famille royale ne se fera aucune illusion. En revanche, c'est après que les choses vont être plus difficiles, parce que quand les gens partent, on ne sait pas exactement ce qu'ils adviennent. Bien évidemment, pour ce qui nous concerne, la séparation la plus importante, c'est celle qui a lieu donc, au mois de juillet 1793, où, à la suite d'un nouveau complot contre-révolutionnaire, la Convention décide d'isoler le petit Louis-Charles, devenu Louis XVII pour les royalistes avec la mort de son père, et de confier son éducation à un sans-culotte du nom d'Antoine Simon, donc qui est cordonnier, ou plutôt d'ailleurs savetier de son état, et qui est un protégé, semblerait-il, de Jacques Hébert, de Gaspard Chemin, qui sont en fait des radicaux, ce qu'on va appeler les enragés. Et donc, il le place auprès du jeune garçon pour en faire un vrai sans-culotte. Le but, c'est d'effacer chez cet enfant-là tout souvenir et tout désir de devenir roi. Parce qu'en fait, on est chez des hommes des Lumières, et dans la philosophie des Lumières, on est persuadé que c'est l'éducation qui va transformer l'homme. Donc, on se dit, cet enfant, on ne va pas le tuer comme son père, effectivement, c'est un enfant. Il est innocent de ce qui a pu se passer, mais en même temps, il représente un danger pour la République. Donc, c'est en l'éduquant, en le rééduquant, qu'on va réussir à le faire renoncer au trône et à effacer le risque qu'il représente pour la Révolution. Donc, bien évidemment, c'est une séparation épouvantable pour la reine. Alors, je vais passer peut-être plus rapidement là-dessus, parce que, donc, comme je vous le disais, je reviendrai sur Simon juste après, mais entre-temps, je voulais dire un mot rapide sur le fait qu'il est important de voir que si cet enfant représente un danger pour la Révolution, c'est précisément parce qu'il est roi de France. Il est certes emprisonné, il est certes, c'est certes un enfant, mais d'après les lois de dévolution du trône, au trône de France, Louis XVII est roi de plein droit le 21 janvier 1793 avec la mort de son père. Et dans l'émigration, son cousin, le prince de Condé, qui est par ailleurs grand maître de France, fait comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'apprenant la mort du roi, il casse son bâton de commandement et il prononce les paroles, donc devant l'armée des émigrés, le roi est mort. Donc la cérémonie, si vous voulez, a eu lieu en dehors de Saint-Louis, mais elle a bien lieu symboliquement, et donc il y a bien une passation de pouvoir reconnue par tous ceux demeure royaliste, que ce soit à l'étranger ou en France. Le problème étant qu'en France, ils n'ont pas le droit de s'exprimer sous peine de mort. C'est la mort qui attend tous ceux qui se déclarent royalistes ou qui, et a fortiori, s'ils répandent des idées royalistes, que ce soit par la gravure, que ce soit par les journaux, ou que ce soit par quelque moyen que ce soit. Mais on a cette preuve qu'il y a eu en fait un intérêt pour cet enfant roi, qu'il était bien roi pour tous ces gens. Alors, je passe rapidement quelques exemples. Donc, par exemple, quand l'armée catholique et royale donc de Bretagne, qui est donc l'armée de Cadoudal en 1794, quand elle émet des bons du roi pour payer les fournitures de l'armée, ce sont bien des bons à l'effigie de Louis XVII. Toutes les déclarations faites par ceux qui se révoltent contre la Convention au nom du roi sont faites au nom de Louis XVII. C'est Louis XVII sous le nom de Louis XVII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Donc il y a vraiment, c'est une royauté fictive en partie, mais qui a une réalité pour tous ces gens qui luttent pour un retour. Alors on dit souvent à l'Ancien Régime, c'est assez inexact. Tous ces gens étaient quand même conscients du fait que les choses ne fonctionnaient pas si bien que ça en 1789. Mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'était la Constitution de 91. Donc ils étaient prêts, ils voulaient renégocier quelque chose pour la plupart. Alors, bien évidemment, avec des nuances des uns aux autres. Mais l'idée, c'était de rétablir quelque chose d'autre. Mais il fallait que la dynastie reste et il fallait que ce petit roi puisse revenir sur le trône d'une manière ou d'une autre. Donc là, je vous donne un autre exemple. Donc, il y a tout ce culte sentimental qui a lieu autour du jeune Louis XVII. Donc ça, c'est un scapulaire qui était porté, là encore, par des membres de l'armée royale et catholique de Vendée, cette fois-ci. Donc, manifestement, il y avait beaucoup d'images qui circulaient et ont gardé près de soi l'image de Louis XVII comme un objet pieux, un objet de dévotion. Alors, justement, je vous ai parlé d'Antoine Simon. Donc, c'est une représentation contemporaine attribuée à Prieur, mais dont on ne sait pas grand-chose. Alors, le problème de Simon, c'est qu'on ne dispose pas de sources fiables. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la plupart des choses que l'on sait sur l'emprisonnement de Louis XVII au moment où il est avec Simon, et même par la suite, ce sont des sources de seconde main, ce sont des témoignages rapportés souvent pendant la Restauration. Donc, à un moment où finalement, il était de bon ton d'accuser les uns, d'accuser les autres, de se dédouaner soi-même pour se faire bien voir. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là est en réalité extrêmement problématique. On n'en sait trop rien. Alors, vraisemblablement, ce qui paraît le plus vraisemblable, c'est qu'Antoine Simon était un rustre, ambitieux, vraisemblablement, qui avait envie de se faire une belle place dans le nouveau régime, qui ne voyait pas pourquoi, voilà. Un médiocre, très certainement aussi auparavant, parce qu'en fait, il a dilapidé de l'argent, il s'est marié, il vivait plus ou moins au crochet de sa seconde femme, il n'avait pas une grande fortune, mais en fait, tout ce le peu qu'il possédait venait d'elle. Bon, pas un personnage extrêmement sympathique. Maintenant, et c'est quand on regarde les comptes du temple de cette période-là, vraisemblablement, il s'est occupé de l'enfant. Alors, vraisemblablement aussi, en lui donnant quelques bonnes raclées une fois de temps en temps, mais j'ai envie de dire très vraisemblablement comme il l'aurait sans doute fait pour ses propres enfants. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on découvre d'autres sources, donc jusqu'à preuve du contraire, le plus vraisemblable, c'est qu'il ait été pas vraiment maltraité, mais éduqué comme un enfant du peuple par un homme un peu rustre, ivrogne, qui buvait, donc quand il buvait, il devait se mettre en colère, il devait taper tout ce qui tombait, enfin bon. Bon, un homme qui n'était sans doute pas méchant, mais pas très malin. Comme nous dirions aujourd'hui, pas très psychologue, assurément, c'était pas du tout le ton de l'époque, de toute façon. L'enfant était sans doute très effrayé, épouvanté. En plus de cela, il se prenait un malin plaisir à lui faire chanter des chansons paillardes. Donc un homme qui a cherché à prendre une revanche sociale sur l'enfant, qui sans doute ne l'a par ailleurs pas martyrisé au sens où il le battait régulièrement, il lui faisait mal. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc l'enfant, en tout cas, a eu... Voilà, on sait par exemple qu'il y a eu des oiseaux, c'est-à-dire qu'ils ont fait réaménager une volière pour qu'ils puissent avoir des oiseaux, ils lui ont donné un petit chien. Donc c'est pas non plus la marque de gens qu'ils délaissaient complètement. En tout cas, il est certain que ça a été très difficile pour cet enfant jusque-là, complètement choyé, de se retrouver face à un milieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est sans doute parce qu'il était désarçonné qu'on a réussi à le faire témoigner contre sa mère au moment du procès. Alors là aussi, c'est un épisode assez connu, au cours duquel Simon, alors, est-ce de sa propre inspiration? Est-ce que c'est quelque chose qui lui a été soufflé par un membre de la commune? On ne sait pas. En tout cas, demande à ce que Louis-Charles témoigne pour au procès de sa mère, donc témoigne à charge en accusant sa mère d'inceste. Alors en fait, le témoignage de l'enfant est finalement assez vague. C'est-à-dire qu'on oriente les questions de l'enfant, on oriente les réponses de l'enfant, les questions sont orientées pour lui faire dire quelque chose que manifestement il ne comprend absolument pas. Mais simplement, comme c'est un enfant traumatisé, qui a peur de ces gens qui l'entourent, il va dire ce qu'on attend de lui pour se protéger. Je peux m'excuser si c'est important. Pour se protéger lui-même. Il va livrer ce témoignage écrit qui va servir donc à Fouquier-Tinville au moment du procès pour accuser Marie-Antoinette de monstruosité, en faire un monstre, regarder cette nouvelle Messaline, hein, cette Messalité qui en fait dévoie son fils pour pouvoir régner à sa place. C'est simplement l'enfant n'est pas manipulateur, l'enfant est très malheureux et il fait, ma foi, ce qu'on lui dit de faire pour être tranquille, tout simplement. Et pourtant, en dépit donc, de ce traumatisme, en dépit de ces difficultés, la pire partie de l'emprisonnement est encore à venir. C'est un petit peu le paradoxe. Parce que malgré tout, avec Simon, même s'il y avait des coups, même s'il y avait des brimades, il y avait quand même quelqu'un. Vraisemblablement, sa femme s'en est occupée. Peut-être même, en tout cas, c'est ce qu'elle dira tout court, après tout. Pourquoi ne pas la croire? Peut-être même a-t-elle dispensé de l'affection à cet enfant. Après tout, elle n'en avait pas elle-même. Et donc, il y avait quand même quelqu'un, il y avait des repères. Simon, au mois de janvier 1794, est obligé de faire un choix entre son siège au conseil général de la commune et sa fonction de gardien du temple. Il n'a pas le droit de cumuler, c'est une forme de non-cumul des mandats qui avait été instauré, donc il doit choisir. Et donc, il choisit de quitter le temple. Et en fait, aucun successeur ne lui sera jamais donné. On va laisser l'enfant dans sa chambre et on va interdire à tout le monde d'avoir des contacts. L'instruction est la même pour Marie-Thérèse, sa sœur, et Madame Elisabeth, qui sont à l'étage au-dessus. Elles-mêmes, en fait, n'ont pas le droit non plus d'avoir de contact avec l'extérieur. Après, comment cela s'est-il passé? On ne sait pas. C'est très compliqué. On sait qu'ils avaient, que la Convention avait décidé d'installer un tour auprès des femmes pour leur passer la nourriture à travers le tour. Le tour n'a jamais été construit. Et de la même façon, il y avait aussi un dispositif de guichet qui était prévu pour l'enfant. Manifestement, il n'est pas certain non plus que ça a été construit. Peut-être qu'il était simplement dans sa chambre, mais qu'on lui passait des plats comme ça, qu'il repartait. Sauf que c'est un enfant qui ne s'était jamais occupé de lui-même. Donc il ne savait pas se tenir propre, enfin pas complètement, pas vraiment. Il ne savait pas changer ses affaires quand il fallait, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre ses affaires, les enlever. Sa sœur, en fait, aura ses vêtements lavés pendant toute cette période-là. Mais lui, en fait, il ne pensait pas les donner. Et comme ses gardiens avaient très peur, en fait, un des gardiens, à un moment donné, a protesté en disant « mais il faut quand même aider cet enfant », et il s'est retrouvé accusé, en fait, de royalisme, aussitôt dénoncé auprès du conseil. Du coup, personne... Alors, il s'en est sorti, hein, il n'a pas été condamné à mort, rien du tout, mais du coup, ça a effrayé les autres, ils n'avaient pas envie d'être dénoncés. Donc on va le laisser, en fait, dans son coin. Et à ce moment-là, son état de santé va se dégrader petit à petit. Vraisemblablement, en fait, était-il déjà malade? Très certainement, il avait dès 1789, le marquis de Pombelle, qui est le beau-frère de sa gouvernante, dit, alors, en gros, la tête de notre dauphin est en train de tourner bossu. Donc, il était vraisemblablement atteint d'une tuberculose dès 1789, que les conditions de vie, que l'humidité qui régnait dans la tour du temps ont finalement accéléré. Et elle va se déclarer, en fait, les symptômes vont aller en s'aggravant à partir du moment où il est laissé complètement à l'arrêt et où personne ne peut ni le soulager, ni faire venir un médecin, ou quoi que ce soit d'autre. À partir du mois de juillet 1794, avec la chute de Robespierre, il va avoir de nouveau des gardiens à demeure qui vont rester auprès de lui. D'abord Jean-Christophe Laurent, puis Bernard et Gauvin, qui vont eux décider de s'occuper de l'enfant, qui vont décider, trouver qu'il est dans un état tellement épouvantable qu'il faut soigner, qu'il faut en faire quelque chose. Mais, donc, ils vont le mettre dans une chambre à part, ils vont refaire venir le médecin, mais dans les derniers mois, quand son état se dégrade, ils attendent trop longtemps. Manifestement, ils attendent trop longtemps au mois de mai. On voit bien qu'en fait, ils hésitent à demander là, pour quelles raisons. Peut-être avaient-ils peur, peut-être ne se rendent-ils pas bien compte. Enfin, il y a eu quelque chose en fait, de leur part qui s'est passé. Ce qui fait que, au mois de. Donc, certes, ils s'en occupent mieux à partir de l'automne 94. L'enfant peut de nouveau prendre l'air, enfin, il est dans une chambre plus aérée. Il faut attendre en fait, le mois de mai pour qu'il soit dans une chambre plus aérée. Disons qu'on va s'en occuper davantage, en tout cas, le nettoyer, etc. Mais pour prendre les mesures qui auraient été les bonnes, ils vont attendre très tard, le mois de mai 1795. Et donc c'était trop tard pour freiner les progrès de la maladie. Et son état se dégrade au début du mois de juin 1795, et finalement il va mourir le 8 juin, dans les bras de ses gardiens, donc c'est Étienne Mann qui recueille ses derniers soupir, et après avoir passé finalement des mois et des mois d'agonie. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles, en dépit des soins meilleurs dont il avait été obligé à partir de septembre, octobre 1794. C'était trop tard. Et il aurait fallu qu'il puisse être pris en charge par un vrai médecin spécialiste bien avant le moment où finalement les gardiens s'inquiètent vraiment de son état de santé. Mais il y avait un tel climat de peur, un tel climat de suspicion autour des enfants, qu'en même temps, même avec la meilleure volonté du monde, tous ces gardiens risquaient aussi leur propre tête et éventuellement celle de leur famille. C'était compliqué pour eux de faire quoi que ce soit. Les risques étaient immenses. Donc, il meurt le 8 juin 1795. Sa mort en fait, est déclarée dans l'après-midi, elle n'est pas déclarée tout de suite, en fait, elle est déclarée comme neuf, parce qu'il fallait suivre la procédure. Et donc, déclarer la mort au comité de sûreté générale qui venait de sortir de réunion et qui a dit on s'en occupera demain. Et donc, les gardiens ont dû faire comme si de rien n'était. Jusqu'au début du matin du 9 juin 1795. Et là, la reconnaissance du corps a eu lieu par en fait, le personnel qui était en place à ce moment-là. Et l'enfant sera inhumé au cimetière Sainte-Marguerite, qui est un cimetière de pauvres, dans une fosse commune. On veut faire en sorte qu'il n'y ait pas, mais c'était la démarche qui avait prévalu aussi pour Louis XVI. Qu'il n'y ait pas de possibilité ni d'identifier le corps, ni ensuite d'élever un culte. C'était vraiment le but était celui-là. Alors, bien évidemment, donc, je me doutais que je serais trop longue, donc je vais quand même dire un mot, bien évidemment, ça ne va pas prendre, puisque dès la mort de l'enfant, en dépit de tous les efforts de la Convention, et justement parce que la Convention a fait beaucoup d'efforts pour que la mort de l'enfant paraisse très transparente, donc ça va avoir l'inverse de l'effet espéré, c'est-à-dire éveiller les soupçons. Alors souvent, le bruit qui court dans un premier temps, notamment chez les royalistes, c'est l'empoisonnement. C'est-à-dire que l'enfant est bien mort, mais il a été empoisonné. On va trouver ça notamment chez Louis XVIII. Louis XVIII était persuadé qu'il avait été empoisonné par la Convention. Et puis, petit à petit, on va voir aussi apparaître l'idée qu'il a sans doute finalement pu échapper à ses bourreaux et donc survivre. Alors, je vais passer vite pour ne pas prendre trop de temps. Donc, voici quelques-uns des imposteurs. Alors, il y en a des faux Louis XVII. Le nom, donc, il y a eu un livre qui est paru il y a quelques années, donc il dit qu'il y a eu 101 Louis XVII, on appelle 101 prétendants. Oui, en tout cas, alors, le livre comprend aussi des prétendants qui ne se sont pas prétendus tels et dont la famille a dit qu'ils étaient Louis XVII, parce qu'à mon avis, encore un autre problème. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont prétendu être Louis XVII, d'une manière ou d'une autre. Le premier, c'est vraisemblablement Jean-Marie Hervagault, qui commence à prétendre être Louis XVII dès 1798. Alors vous voyez, cet estampe est amusant. Vous avez ici le masque qui prouve que révèle son caractère d'imposteur. Hervagault, en fait, est un. C'est un spécialiste de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait commencé par se faire passer pour le fils d'un noble parti en émigration, qui vagabonde sur les routes, qui manifestement a besoin de croire qu'il n'est pas ce qu'il est, donc, c'est-à-dire un homme du peuple, et qui cherche à trouver d'autres raisons, un autre destin que celui qui lui est réservé. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il va faire des adeptes. Les gens vont croire à son histoire au point que non, vous allez avoir Monseigneur de la Fabre, qui était l'évêque de Nancy sous l'Ancien Régime et qui est un des correspondants réguliers de Louis XVIII, va dire « Vous savez, savez-vous que… » Il ne va pas lui parler de Hervagault dans sa correspondance. Et parce qu'en fait, ça suscite un espoir chez les royalistes en 1798. Tout est perdu à ce moment-là. Louis XVIII n'est pas très populaire, c'est pas un roi, c'est un roi dont on se méfie. Tout ce qui s'est passé sous la Révolution paraît très injuste. Donc finalement, pourquoi pas? Pourquoi l'enfant n'aurait-il pas survécu? Et surtout, pour ces gens, qui sont souvent des catholiques, providentialistes, la providence divine n'a pas pu abandonner la monarchie française. Et donc, d'une certaine façon, le fait que Louis XVII ait survécu est plus normal que le fait qu'il soit mort au temple. Parce que dans le plan de la providence divine, ça s'explique beaucoup mieux que le fait d'avoir laissé mourir cet enfant. Donc c'est pour ça que la croyance va très bien prendre, parce qu'en fait, c'est une explication qui apparaît tout à fait naturelle et qui apparaît plus digne du sort de la France, fille aînée de l'Église, qui est la grande nation chrétienne et que Dieu ne peut pas avoir abandonnée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la croyance religieuse, qui ne dissocie ni pas le roi et la France, et pas le roi, la France et Dieu, du catholicisme. Et donc, c'est vraiment le principal moteur de toutes les croyances dans la survivance de Louis XVII jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est vraiment ça. Ce sont des gens qui ont perdu tout espoir dans le régime politique tel qu'il existe en France, tout espoir encore dans Louis XVII et dans Charles X, et qui donc sont persuadés que si les choses ne vont pas bien, si la Restauration échoue, si l'Empire, c'est Napoléon, dans le fond, c'est parce que le vrai roi est caché, le vrai roi est ailleurs, et qu'en fait, on attend qu'il réapparaisse. Et donc ça, c'est vraiment le moteur, en fait, de ces croyances. Et donc, tous ceux qui vont entourer tous ces imposteurs, ce sont toujours de très fervents royalistes. Des gens qui, vraiment, sont dans le monarchisme le plus pur, en fait. Et c'est précisément parce qu'ils sont dans le monarchisme le plus pur qu'ils croient ces survivances. Donc, vous avez Hervagault, qui va finir emprisonné, qui meurt en 1812 en prison. Mathurin Bruno, alors je l'appelle le scandaleux parce qu'il va avoir droit à un retentissant procès pendant la Restauration. C'est vraiment le même profil qu'Hervagault. C'est aussi quelqu'un qui s'est fait passer auparavant pour des fils de nobles émigrés, quelqu'un qui vagabonde, qui ne se satisfait pas de sa condition et qui à un moment part même aux États-Unis et revient en 1815 en Normandie et se fait appeler Charles de Normandie, Charles de Navarre. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait il amalgame le Charles de Navarre du XIVe siècle avec le duc de Normandie. C'est très drôle. Donc il va être emprisonné pour usurpation. La Restauration ne rit pas trop en fait avec Mathurin Brunoz, ça ne fait pas du tout rire Louis XVIII. Et il va lui aussi être soutenu en fait par une partie des royalistes, des ultra-royalistes, qui en fait ne sont pas d'accord avec la ligne politique soutenue par Louis XVIII. Et ces gens-là, en fait, vont plutôt laisser planer le doute. Hein. Alors, en plus, Mathurin Bruno est quelqu'un d'assez vulgaire, d'assez commun, il ne sait pas écrire. Enfin, il ne joue pas bien son rôle d'une certaine façon. Donc, les gens ne sont pas complètement dupes. Mais en même temps, ça permet de rappeler à Louis XVIII que finalement, peut-être qu'il n'est pas là où il devrait être. Donc, il y a aussi toute une manipulation politique autour d'eux. Par la suite, vous avez des Louis XVII qui apparaissent partout. Dans toute l'Europe, en fait, partout, la Révolution française et dans le monde a eu un écho. Vous avez en Angleterre Augustus Smith, qui a été un pianiste, qui en fait a eu une filiation compliquée, c'est le fils d'un monsieur Smith, et donc qui va s'inventer toute une généalogie autour en expliquant finalement que sa bâtardise est le fruit du fait qu'il a été échangé au temple, donc il n'est pas vraiment bâtard. Enfin, il réinvente tout un tas de choses. Donc là, on est dans le cas où ce que les psychologues appellent des interprétateurs filiaux. Donc, ce sont vraiment des gens qui se réinventent une généalogie parce qu'ils sont très malheureux de la leur. Excusez-moi, je passe un petit peu vite. Vous avez Eleazar Williams, alors c'est le plus exotique parce que c'est tout de même un Indien du Canada, pasteur évangélique de surcroît. Alors là, il semblerait que justement son évangélisme ait joué un rôle parce que sa mère était très catholique. Et il y a des problèmes avec sa mère, il s'entend pas bien avec elle, donc on se demande aussi dans quelle mesure il y avait une espèce de règlement de compte. Donc il va se persuader d'être Louis XVII, qui prétend avoir rencontré le prince de Joinville, parce qu'on est sous la monarchie de Juillet à ce moment-là, et Joinville fait escale aux États-Unis au moment d'aller chercher les cendres de Napoléon. Donc il prétend qu'il l'a rencontré, que Joinville aurait voulu qu'il renonce à ses droits au trône. Enfin, là aussi, il y a toute une mise en scène, mais à laquelle il croit. Il y a une part de sincérité indéniable chez tous ces gens. Et puis, il y a les deux plus fameuses de la monarchie de Juillet, donc qui sont Richemont et Neundorf, alors qui se livrent à une... Alors, ils sont contemporains. Hein. Richemont, la première apparition, donc on a une déclaration qui est vraisemblablement de sa part, c'est 1828. Neundorf, 1830-31. Et en fait, ils vont prendre leur essor sous la monarchie de Juillet à un moment où les royalistes sont horriblement déçus de la révolution de 1830. Et donc, là encore, ce sont des légitimistes qui sont déçus de leur prince, qui ne comprennent pas pourquoi en 1830 il y a eu cette révolution. Et donc, ils vont en fait chercher une raison à cette révolution dans le fait que bah, finalement, si ça n'a pas marché, c'est parce que le vrai roi n'est pas là. Et donc, ils vont se répartir entre Neundorf et Richemont. Tous les deux vont avoir les mêmes stratégies, hein, accumuler les preuves, faire venir des témoignages. Ils font vraiment des quêtes de témoignages de proches de la famille royale pour essayer de montrer que c'est eux le vrai. En fait, ils se battent entre eux. Il y a vraiment une surenchère. Alors, ils s'empruntent des éléments quand ils voient que c'est plus intéressant chez l'autre. Il y a tout un jeu en fait, de miroir entre les deux prétendants. Et il y a en fait, dans les deux une part mystique. Alors, très appuyé chez Neundorf, qui va créer sa propre église en Angleterre, l'appui d'un mystique qui s'appelle Vintras, essayer de diffuser ce qu'il appelle la croix de grâce en France. Enfin, donc, il y a toute une dimension mystique chez Richemont, très hétérodoxe. Extrêmement hétérodoxe, puisqu'il veut inventer une église qui serait à cheval entre le catholicisme et le protestantisme, qui réunirait tous les chrétiens. Richemont va rester dans quelque chose de plus orthodoxe. Lui, il va chercher à se faire reconnaître, par exemple, par le petit voyant de la Salette, Maximin, sans surprise. Mais ils ont bien compris que l'un des ressorts, c'était finalement qu'il fallait qu'il fasse reconnaître par un signe divin, d'une certaine façon, c'était la seule manière de se faire reconnaître vraiment. Bon, donc l'un et l'autre, Nonthorff disparaît aux Pays-Bas, hein, il meurt en exil. Richemont meurt chez Madame d'Apcher, près de Lyon, donc au château d'Apcher en France, en 53. En ayant eu l'un et l'autre, en fait, un certain succès avec des gens qui ont vraiment cru à leur histoire, notamment des royalistes fervents, mais en n'ayant jamais réussi à se faire reconnaître officiellement par qui que ce soit, et surtout pas par la famille royale en exil à ce moment-là. Donc, comme j'étais déjà un petit peu longue, je vais arrêter ici, après ce panorama rapide des différents imposteurs. En tout cas, je vous remercie de votre attention.
Beaucoup pour cet exposé. Je propose qu'on laisse la parole donc, à la salle et que vous puissiez poser librement vos questions.
Alors, vous avez évoqué l'âme pour regarder l'enfant. Est-ce le général un peu de lien à l'âme?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport. C'est pas du tout la même famille. Non, c'est pas le même milieu. Il était aux gardes françaises, mais non, c'est pas la même famille.
Et alors, vous savez, effectivement, Madame Royale n'a jamais supporté les confrontations avec les supposés Louis XVII.
Oui. Oui, effectivement, oui, je vous avoue, oui. Comment dire, c'était même une forme de répulsion réelle. Pas certain que ce soit de bon cœur, il n'a pas voulu avoir l'air ridicule, vraisemblablement, et donc au bout du comte y refuse le cœur. Felton est très ennuyé, donc il va le donner à l'archevêque de Paris. Et l'archevêque de Paris va le conserver, le rendre à la famille Pelletan, qui le conservait pendant un moment, mais après le sac de l'archevêché, il le rend à la famille, sous la monarchie de Juillet, qui le garde jusqu'à assez tardivement, la famille Pelletan finit par le remettre aux héritiers du comte de Chambord, donc à la fin du 19e siècle. Et donc l'élève avait bien, il y a un moment, en fait, le cœur avait disparu de chez Pelletan, donc c'est avant la restauration, pardon, excusez-moi. Avant la restauration, un de ses élèves l'a volé. Je ne sais pas très bien pourquoi. Donc effectivement, c'est une drôle d'histoire. Et très honnêtement, je vais vous avouer qu'il n'y aurait pas eu les analyses ADN, j'aurais émis un doute raisonnable sur la véracité de toute cette histoire. Parce que ça a quelque chose d'absolument invraisemblable. Mais donc, oui, c'est bien le cœur. Et l'autre, pour le coup, a toujours été considéré comme le cœur de Louis-Joseph. C'est presque plus facile à retracer, parce que Louis-Joseph était mort avant la Révolution. Donc, le cœur a pu être sauvegardé comme une partie des tombeaux de Saint-Denis, enfin, certaines reliques de Saint-Denis. Enfin, vous voyez, donc, bon, c'est moins suspect, a priori. Et pourtant, c'est bien.
D'autres questions?
Oui, moi j'ai une question de KPDB. Il n'y a jamais eu de tentative de le libérer de...
Oui, si, il y a eu des tentatives, bien évidemment, de le libérer. Mais plutôt, en fait. En fait, surtout quand il était. Les tentatives qui ont presque réussi sont celles qui ont eu lieu sur le premier semestre 93, donc après la fin de 2016, quand la surveillance au temple se relâche. À ce moment-là, tout le monde est persuadé que la famille de Louis XVI va être libérée et va partir en Autriche. Pas tout le monde, enfin, les gens, c'est un peu ce qui se dit, et donc la surveillance se relâche légèrement. Et à ce moment-là, il y a des tentatives d'évasion pour toute la famille royale, et ça échoue de peu. Et puis après, certains vont chercher effectivement à le libérer. Donc notamment une Anglaise, Madame Atkins, c'est une histoire un petit peu folle, qui va tenter à plusieurs reprises de libérer, qui se dit qu'elle va y réussir, mais qui manifestement a été victime d'escrocs qui ont gardé son argent sans rien faire.
Peut-être une dernière question, et puis après donc...
Madame Atkins?
Alors c'était une riche Anglaise qui était en fait initialement une actrice et qui s'est pris de passion pour Marie-Antoinette et qui a financé des réseaux contre-révolutionnaires. C'est une histoire assez étrange, en lien avec les archives, que je n'ai pas été consultée pour être tout à fait honnête. Donc il y a eu une publication partielle qui a été faite au début, dans les années 30. Mais il faudrait en fait reprendre le dossier, c'est une histoire assez étrange. Donc c'est une dame qui a mis sa fortune en fait au service de la famille royale via les émigrés qui étaient eux-mêmes à la tête de réseaux d'émigration, mais qui ne semblent pas tous d'une honnêteté formidable. Alors il y a Frotté parmi eux, qui pour le coup est honnête. Donc elle était notamment en lien... Voilà.
Alors, je crois que madame avait une question, et puis ensuite donc madame Chausset, qui est présente et qui est responsable de la librairie des Princes, pourra vous accueillir donc à la fin de la conférence si vous souhaitez donc acheter l'ouvrage de madame Becquet, donc, qui est paru aux éditions Perrin, pour compléter cette visite.
Excusez-moi, je parle difficilement parce que il y a quand même une tombe dans le cimetière Sainte-Marguerite, parce que je l'ai visitée justement avec des amis de Versailles très très longtemps.
C'est tout le problème du cimetière Sainte-Marguerite et de la tombe. A priori, c'est pas la tombe de Louis XVII. En fait, on ne sait pas vraiment où elle est. Donc, il y a eu des fouilles qui ont été faites récemment. On a dit que c'était peut-être ça, sauf que le squelette ne correspond pas vraiment en fait à ce qu'on attendrait d'un enfant de cet âge-là. Donc, là, vraiment, il y a une incertitude sur ce fameux tombeau de Sainte-Marguerite. C'est rien n'est avéré, on ne peut rien en dire, en fait.
Pourtant, c'est indiqué.
Oui, mais parce que ça a été indiqué par la tradition du lieu, par un curé du lieu qui voulait soutenir le fait qu'il a voulu identifier, parce que les témoignages sont contradictoires. Personne n'est d'accord sur un point, il aurait pu être enterré. Mais enfin, par parenthèse, pour lui cesser tout marre honnête, ma foi, on n'en sait rien.
On a parlé de Clamart.
Oui, certaines versions expliquent qu'en fait le corps aurait été déterré et on est à Clamart.
Et une histoire...
Cimetière de Petit Clamart, qui est dans Paris. Hein.
Et on a parlé de Robespierre également, qui aurait sorti
le corps pour éviter qu'il y ait un culte qui se développe, qu'on puisse pas retrouver les... Enfin, moi, très honnêtement, je n'ai rien à en dire parce que je n'en sais rien. Rien ne permet d'affirmer que, a priori, ça me paraît quand même un peu. Pour le coup, on est dans le roman de KPDP, vraiment. Mais après, il s'est aussi passé des choses tellement bizarres que. Moi, je pense qu'il est quelque part dans le cimetière Sainte-Marguerite, que simplement on ne l'a pas retrouvé parce qu'on n'a pas fait. Parce qu'il a été mis tel quel et qu'on ne le trouvera jamais. Enfin, moi, c'est l'hypothèse la plus récente.
Si il était dans une fiche commune, il était cas à d'autres corps, évidemment, avec. C'est difficile de reconnaître.
Et pardon, la thèse de Robespierre qui l'aurait fait sortir et qui aurait trouvé que l'enfant était trop idiot, qu'il ne voulait plus le garder. Non.
Improbable.
Ça, c'est improbable.
C'est complètement improbable. C'est hautement improbable. Enfin, il n'y a aucune.
C'est romanesque.
Oui, c'est romanesque. C'est une enquête sans fin, ça.
Oui, c'est.
Très bien, donc je crois que c'est le moment de conclure cette conférence. Merci de votre présence. Merci, Valérie, d'avoir voulu partager avec nous votre savoir. Merci également à Mme Denieu pour l'encadrement de la conférence et puis donc à Mme Chaussée pour sa présence. À bientôt.